Bonjour, c'est Pascal Solière, c'est l'épisode 16 de ITcast du 10 juillet 2015. C'est le week-end du 14 juillet, c'est l'été, il fait chaud, tout le monde part en vacances, mais peu importe, l'actualité continue et je suis en ligne aujourd'hui avec Stanislas pour vous raconter tout ça. Donc on va vous parler un petit peu de Surface, pas mal de Windows 10 puisqu'il y a eu une avalanche de builds de Windows 10, 4 en 2 semaines si vous avez bien tout suivi. Une actualité plutôt riche également du côté d'Azure, avec des nouvelles API, avec des améliorations du portail, avec de l'hyperscale, du cloud hybride, du disaster recovery, enfin plein d'actualités sur Azure. Et puis on ne doit pas oublier Office, puisque nos amis qui utilisent des Mac ont enfin, depuis hier, le 9 juillet, un Office 2016 tout neuf et bien fini. Tout de suite, l'ITcast numéro 16 avec Stanislas. Bien, bonjour et bienvenue à cet épisode 16 de ITcast. Je suis en ligne avec Stanislas. Salut Stan.
Bonjour Pascal.
Tu vas bien ce matin ?
Très bien, très bien.
En cette veille, alors c'est la veille d'un week-end de 4 jours, je crois, du 14 juillet. Donc il y aura peut-être pas grand monde hein, pour nous écouter, mais c'est pas une raison pour ne pas raconter l'actualité qui s'est passée les deux dernières semaines, puisqu'il y a eu quand même quelques petites choses intéressantes.
Exactement, la roue ne s'arrête pas tout de suite, on continue à faire plein de choses pendant l'été.
Voilà, alors on va avoir un petit peu de Surface, de Windows 10, d'Azure, pas mal d'Azure.
Ouais.
Et puis les dernières nouvelles d'Office également qui viennent de nous annoncer des choses intéressantes. Donc d'abord, j'ai une nouvelle à propos de Surface. C'est pas souvent qu'on en a. Donc on a deux petits trucs à propos de Surface. On a sorti une mise à jour. Alors c'était fin juin. Je crois que c'était même carrément le jour du tournage du dernier podcast qu'on avait sorti une mise à jour de firmware et des drivers pour la Surface. Pour les différentes surfaces, toutes les surfaces, je crois, y compris la Pro 3, notamment pour prendre en compte les futures fonctions de Windows 10 et puis des améliorations comme la durée de vie de la batterie, etc. Enfin, des trucs plutôt sympas. Ce qui n'empêche, ça n'a aucun rapport avec le bug de la preview, des dernières builds de Windows 10 qui repropose à chaque fois la mise à jour du mois de mai du firmware de la Surface, mais ça c'est un bug connu qui sera bientôt résolu. Donc l'autre nouvelle intéressante sur la Surface, tu as peut-être vu ça Stan, c'est la sortie prochaine de la Surface 3 en version 4G, donc avec une possibilité de mettre une SIM 4G à l'intérieur pour avoir des données même si on n'est pas à la maison. Et donc c'était déjà sorti depuis quelques semaines au Japon. Et le 3 juillet, donc on a sorti cette version 4G en Allemagne et aux US. Non, pas aux US, pardon, en UK, en Angleterre, au Royaume-Uni, décidément. Uh-huh. Et puis, ça va venir très bientôt en France et en Espagne. Et notamment en France, ça va être en association avec Orange Business Service, donc Orange qui va proposer des Surface 3 4G.
D'accord, donc en fait, c'est pour l'instant, ce sera vendu sous la forme de package avec des opérateurs. Donc Orange en France, Deutsche Telekom en Allemagne, O2 en Angleterre,
en Royaume-Uni,
et Movistar en Espagne. On peut estimer probablement que par la suite, ce sera vendu hors opérateur, mais dans un premier temps, ça commence comme ça.
Voilà. Donc, voilà pour Surface. Au niveau de Surface, il y a une petite nouveauté également qui n'a pas fait l'objet d'articles, etc. Mais c'est la disponibilité d'une version supplémentaire de la Surface Pro 3. Alors je crois que c'est la Core i7 qui est disponible maintenant avec un niveau moins cher, c'est-à-dire un niveau de volume de stockage inférieur. Je crois que c'est 128 Go ou un truc comme ça.
Donc c'est ce qui est un petit peu léger quand même aujourd'hui. 128 Go. C'est bien qu'on a tout dans du cloud, mais si on doit faire un petit peu de stockage local, ça peut devenir un petit peu serré à voir si c'est intéressant de passer sur du 128, plutôt privilégier aujourd'hui du 256, à mon avis.
Tiens, à ce propos, aujourd'hui, ma HP Stream 7, donc toute petite tablette 7 pouces qui contient, je crois que 32 gigas de SSD, a reçu le petit programme de réservation de Windows 10. Et donc, du coup, elle est compatible. Et voilà. Donc, je vous dirai d'ici quelques semaines, dans un mois à peu près, si la mise à jour s'est bien passée sur une toute petite machine à 32 gigas comme ça, et je crois 1 giga de RAM.
Et est-ce que tu as reçu le même pop-up sur ta Dell Venue 8 Pro ?
Je l'ai aussi, oui.
D'accord.
Je l'ai reçu aussi.
Je pense qu'on testera ça. Donc c'est toujours prévu pour le 29 juillet la mise à jour, donc je pense qu'on testera ça fin juillet, début août, hein, nos mises à jour respectives, parce que c'est pareil, je suis équipé d'une Dell Venue 8 Pro, comme ça on pourra raconter un peu nos expériences de mise à jour de tout ça.
Voilà, alors n'oublions pas quand même que les mises à jour ne seront pas le 29 même, le premier jour, mais le 29 ça marque la première disponibilité, et puis ensuite ça va être étalé dans le temps, hein. On ne sait pas exactement quel jour on va recevoir. Oui. En plus, ça fait 3 gigas quand même, donc bon, pour certains, c'est quelque chose.
Il faudra penser à faire un peu de ménage sur les tablettes, hein, parce que ces petites tablettes n'ayant pas beaucoup d'espace, ce serait dommage de bloquer la mise à jour simplement, ouais, parce qu'elles sont un petit peu remplies à l'instant T, quoi.
Tout à fait. Donc toujours à propos de Windows 10, tiens, la semaine dernière, ça a été un petit peu la folie. Ça a commencé le 29 juin, avec donc juste pile un mois avant la sortie, hein. Avec la build 10.158, le lendemain, le 30 juin, la 10.159, deux jours après, le 2 juillet, la 10.162. Et puis c'est pas fini, parce que en fait, on a sorti donc hier, le 9 juillet, la 10.166. Donc ça s'accélère de plus en plus. Alors, à chaque fois, c'est des corrections de bugs, du finissage, quoi, hein, du polissage de fonctionnalités. On peut dire également que nous, de notre côté, on a réussi à faire marcher Windows Hello.
Donc, il a la reconnaissance faciale avec une caméra un peu spéciale, et donc le login avec la reconnaissance faciale de la personne.
Voilà, reconnaissance faciale, donc qui marche plutôt pas mal. Hein. Et simplement pour le faire marcher, hein, pour les gens qui voudraient essayer, pour l'instant, c'est pas possible publiquement, puisque ça demande un driver de la caméra de Intel, la RealSense 3D, la F200, qui n'est pas encore public, qui n'est pas encore disponible. Donc ça va venir, hein, ça va venir. Un petit peu de patience pour pouvoir tester tout ça. Nos tests ont montré que si on a trois utilisateurs d'une surface, par exemple, sous Windows 10, eh ben, le Windows Hello reconnaît la personne qui va venir ouvrir une session ou débloquer la session. Et ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire que ça ne fait pas que l'authentification, mais également l'identification de l'utilisateur. Un peu comme une empreinte digitale. À propos de toutes ces builds, donc l'image ISO que l'on peut télécharger aujourd'hui sur le site de Insiders, ben c'est la 10.162, donc très récente également, puisqu'elle date du 2 juillet. Si vous voulez faire des tests d'installation complète dans des machines virtuelles, par exemple, de Windows 10. Il y a eu un article également dont le titre était Windows 10 Preparing to Upgrade 1 Billion Devices, donc la préparation d'une mise à jour d'un milliard d'appareils, qui décrivait un petit peu le timing, donc ce déploiement en plusieurs étapes, et puis le fait que les versions professionnelles, donc la version Enterprise et éducation serait disponible à partir du 1er août, en fait, sur le volume Licensing Service Center, donc le site VLSC, pour les gens qui ont des accès aux licences en volume. Donc ce sera le 1er août pour les entreprises, en gros.
Alors, entreprise versus pro versus version édition à la maison, quelles sont les grosses différences qu'on va avoir dans les différentes éditions de Windows 10 alors ?
Alors justement, donc on a sorti la semaine dernière également un site et un document. Donc sur le site, on a une comparaison interactive des fonctionnalités par grande famille, donc la Home, la Pro, la Enterprise et l'Educ. Et puis, il y a un document également qu'on peut télécharger, un document PDF, qui résume tout ça, si vous voulez consulter ça tranquillement offline. Donc c'est pas mal fait, c'est la première fois qu'on sort un tableau complet des fonctionnalités et des différences des différentes éditions de Windows. Par exemple, on apprend que si on va voir les expériences business, donc les fonctionnalités professionnelles, donc il y a des choses qui ne sont pas des surprises, hein, parce que c'est des fonctionnalités qui existaient déjà dans les versions précédentes, comme par exemple la gestion des groupes policy, le BitLocker qui est à partir de la Pro, ce genre de choses-là, donc Direct Access qui est à partir de l'Enterprise, Windows to Go Creator pareil, AppLocker pareil, etc. Par contre, il y a des petites nouveautés intéressantes. Donc, le sideloading d'applications développées en interne d'une entreprise, par exemple, le sideloading est permis sur toutes les éditions cette fois-ci. On a beaucoup simplifié le process de sideloading. Pour ceux qui ont joué avec sur les versions précédentes de Windows, c'était compliqué, disons. Là, ça devient simple et un petit peu comme on s'y serait attendu dès le début. Mais bon, les choses ont été autrement jusqu'à maintenant. Le MDM pareil à partir de la home, le business store, donc la possibilité de gérer d'une façon plus professionnelle toutes les applications qu'on va pouvoir acheter dans le store est disponible à partir de la pro. Le easy upgrade, donc cette façon de transformer une version inférieure de Windows 10 à une version supérieure, donc par exemple on pourra faire un easy upgrade entre guillemets, de la Pro vers l'Enterprise.
Ça, c'est une vraie nouveauté, parce que jusqu'ici, les éditions de Windows, l'édition Entreprise était une édition qui était vraiment séparée du reste des éditions. Et donc, quand on achetait en commerce, on va dire une entreprise achetait en commerce un PC avec une licence Pro, si elle voulait bénéficier des fonctions Entreprise, il n'y avait pas de possibilité d'upgrade, elle devait réinstaller obligatoirement depuis l'image ISO de la version Entreprise, le PC complètement.
Alors que là, avec un package de provisionnement, qui est le terme consacré, on peut transformer une édition pro en édition entreprise. Donc, ce qui est plutôt, et en plus c'est automatisable, donc avec ce genre de package, et donc offre des scénarios plutôt sympas. Pareil avec un scénario équivalent d'une version home vers une version éducation pour les scénarios plus grand public lié à l'éducation.
Ça, c'est nouveau, ça, la licence éducation comme ça, enfin l'édition plutôt éducation. Oui. Je crois qu'on n'avait pas ça avant, si je ne dis pas de bêtises.
On n'avait pas du tout ça avant, c'est nouveau. Ça correspond peu ou prou à une version Enterprise au niveau des fonctionnalités. Sauf la différence qu'il y a par rapport à une Enterprise, c'est que sur l'éducation, on ne dispose pas du mode de LTSB. Long-term support branch, je pense.
Long-term support, oui. Je pense que c'est long-term support.
Long-term support branch. Ce qui est assez logique, hein, puisque dans le monde de l'éducation, on a intérêt à ce que à forcer un petit peu la main des utilisateurs pour qu'ils se mettent à jour le plus fréquemment possible. Contrairement aux entreprises où on peut avoir, dans certaines entreprises, certains scénarios très précis, besoin d'avoir une stabilité très forte de certaines machines. Dans l'éduc, ce n'est pas le cas. Au niveau sécurité, on précise dans ce tableau que les deux fonctionnalités qui combinent à la fois le matériel et le logiciel pour apporter un très bon niveau de sécurité pour certaines parties ne seront disponibles que pour l'Enterprise et l'Educ. Donc je pense à Credential Guard et Device Guard. Donc Credential Guard et Device Guard, c'est deux fonctionnalités qui utilisent des fonctionnalités de virtualisation des processeurs pour isoler en mémoire certaines zones. Donc Credential Guard va isoler des parties sensibles de LSASS. Donc les parties sensibles, on pense au stockage en mémoire des hashes de mots de passe des différentes sessions qui sont présentes sur la machine. Et puis Device Guard va protéger de la même façon le code qui va servir à contrôler l'intégrité des drivers qui se chargent des drivers et des logiciels qui se chargent sur la machine. Donc ces deux fonctionnalités sont des fonctionnalités de sécurité un petit peu haut niveau qui seront disponibles que sur l'Enterprise et l'éducation.
On a fait un petit peu le tour, je crois, des grosses nouveautés qui ont été annoncées sur Windows 10.
Concernant Windows 10, oui.
Ouais. Donc, du coup, on continue naturellement. On a parlé des périphériques. Alors, oui, tant qu'on est aux périphériques, vous avez peut-être vu une annonce concernant une restructuration chez Microsoft de l'activité principalement au niveau de Windows Phone, enfin Windows Mobile plutôt maintenant. Donc ce qui a été annoncé dans la presse, effectivement, c'est qu'on recentrait un petit peu le travail qui est fait autour des smartphones, globalement, sur trois axes ou trois cibles particulières, donc le haut de gamme, le trop haut de gamme, le bas de gamme, et puis le monde de l'entreprise. Ce qui est assez logique, finalement, le monde de l'entreprise, parce qu'on a le prochain Windows 10 en édition mobile sera en fait le même code finalement que du Windows 10 qu'on peut avoir sur les PC, les tablettes ou voire l'IoT. Et donc du coup ce sera effectivement des équipements qui seront très orientés management d'entreprise également, parce que ça intégrera exactement ce qu'il y a dans Windows 10 aujourd'hui. Du coup, on a parlé de mobile. On est une entreprise qui fait Microsoft, une entreprise qui est dans un monde mobile
et de cloud. Mobile coup, first, cloud first. C'est ça.
Quoi de neuf, exactement. Quoi de neuf du côté du cloud. Alors Azure, Office. On va peut-être commencer par à tout seigneur, tout honneur. Azure.
Alors je crois, Stan, qu'il y a des gens très connus qui reconnaissent une certaine capacité de Microsoft à délivrer au niveau du cloud.
Oui, alors on est en fin d'année, donc c'est traditionnel. Édition des Magic Quadrants du Gartner, donc qui font partie des références pour tous les gens qui regardent un petit peu où va le marché. Donc c'est des études en fait, ou c'est des documents qui sont publiés par le Gartner de manière régulière sur un petit peu tous les sujets dans le monde de l'informatique. Et donc dans ce Magic Quadrant, dans ce cadran magique, on a en gros quatre cases avec on a la case des challengers, la case des leaders, la case des visionnaires et puis la case des acteurs dans des marchés de niche, on va dire, des niche players. Donc la bonne nouvelle, mais c'est relativement assez logique, c'est que désormais dans le cadre des leaders, on a également Microsoft, donc pour toute la partie stockage dans le cloud, donc tout ce qui est stockage dans Azure. En fait, on est trois hein, dans ce cadre des leaders. Celui qui est le plus en haut à droite, c'est AWS. Historiquement, hein, je veux dire, leur offre S3 est plutôt, notamment, est plutôt assez réputée, a fait ses preuves.
D'accord.
Mais on se rapproche, on est vraiment pas loin derrière. Et puis, un petit peu plus excentré, mais toujours dans le cadre des leaders, on a également Google. Mais si la tendance continue à se préciser, on va bientôt avoir AWS et Microsoft qui vont se détacher et qui seront effectivement bien en haut à droite du cadran des leaders.
Donc là, on parle de d'une fonctionnalité de stockage. Hein.
Exactement. Là, c'est le Magic Quadrant pour tout ce qui est service de stockage dans du cloud public. Donc là, on n'est plus sur le service de stockage, on va dire, de type infrastructure de service et non pas du stockage grand public consommateur comme on pourrait avoir avec OneDrive, Dropbox ou autre.
Oui,
Dropbox d'ailleurs s'appuie sur Amazon en arrière-plan. Donc là, on est vraiment sur le stockage, on va dire, cloud public, plutôt orienté effectivement infrastructure de service. Et donc, d'après IDC, ils estiment qu'en 2020, la totalité des données numériques stockées entre guillemets dans le cloud devrait être pas très loin des 40 zettabytes.
Zettaoctets.
Zettaoctets, autant pour moi.
Alors des zettaoctets.
2023. Alors des zettaoctets. Combien ça fait 40 millions de pétaoctets. Et le pétaoctet est, Pascal ?
Donc un péta, c'est 1000 teras.
Voilà.
Donc c'est 1 million de gigas. Donc là, on est dans le million de millions de gigas. 40 millions de gigas, c'est ça ?
Ça doit être ça.
40
c'est gros,
millions
quoi.
De pétas, ouais.
Effectivement, c'est très très gros. Donc, bon, voilà, c'est une estimation du Gartner, mais enfin, c'est assez compréhensible, hein. Aujourd'hui, on génère tous de la donnée en permanence, ne serait-ce que par la photo. Et du fait qu'on fait constamment des photos, ben, on génère constamment des données en plus, plus tout le reste derrière. Donc effectivement, tout ça sera stocké effectivement de plus en plus dans des solutions de cloud. Mm. Et donc du coup, là, on est plutôt pas mal positionné. Globalement, nos offres de stockage, elles sont aujourd'hui localisées dans 28 régions dans le monde. Enfin, probablement, ce sera bientôt dans 22 régions dans le monde, pardon. Et donc, du coup, ben, en tant que client, vous pouvez choisir l'endroit où mettre les données au plus proche de vous.
On a également annoncé la mise à jour de l'application Azure Authenticator. Alors, cette application, je ne sais pas si tu l'utilises, Stanislas.
Alors non, en fait, moi je l'utilise pas parce que j'ai paramétré mon Azure Multifactor Authentication pour recevoir des SMS pour me faire rappeler.
Voilà.
Donc perso, je l'utilise pas. Alors toi, tu en es utilisateur, donc tu.
Donc je l'ai utilisé, je l'ai déjà testé et cette application, donc Azure Authenticator, c'est une application qu'on installe sur son téléphone. Alors elle existe pour tous les téléphones, hein, donc c'est plutôt pas mal, à la fois Windows Phone, mais aussi iOS et Android. Et c'est l'application qui permet de faire l'authentification multifacteur avec son téléphone. Et la nouveauté de cette nouvelle version, c'est que pour les autres systèmes non Microsoft qui supportent le protocole, enfin les one-time passcodes avec le protocole OATH. Alors ne me demandez pas si ce que ça veut dire. mais c'est OATH. Donc ces systèmes tiers comme Google et d'autres, hein, et je pense que Dropbox également utilise le même, donc peuvent utiliser cette application pour leur authentification multifacteur. Donc ce qui permet d'avoir une seule application et puis de s'authentifier avec sur plusieurs systèmes, ce qui est plutôt sympa. Personnellement, moi j'ai utilisé l'application Google Authenticator pour m'authentifier à la fois sur Google mais également sur Dropbox. Donc maintenant je vais pouvoir le faire sur l'application Azure Authenticator.
D'accord, ça marche également du OneDrive, de Microsoft, des comptes Microsoft également.
Ça marche aussi pour un compte personnel Microsoft, oui.
Du coup, ça permet d'avoir une application d'authentification pour la partie d'entreprise qui est Azure AD, pour également les comptes personnels live, enfin Microsoft compte Microsoft, et pour tout ce qui supporte du OAuth, en fait, c'est ça ?
Exactement. J'étais en train de relire en même temps que je parlais pour être sûr que je disais pas de bêtises. Et effectivement, il y a bien écrit dans l'article, cela ne marche pas uniquement pour les comptes protégés par le Multifactor Authentication de Azure, mais aussi pour les Microsoft Accounts, donc les comptes personnels Microsoft, Google et tout autre fournisseur qui supporte le OATH, One Time Passcodes. Donc voilà, plutôt sympa comme solution pour remplacer toutes les solutions qui traînent sur nos téléphones. Alors, Azure Preview Portal Improvements, le nouveau portail d'Azure, manifestement, a subi quelques mises à jour en juin. Uh-huh. Ça a été annoncé le 2 juillet, donc ce fameux nouveau portail d'Azure, hein, qui a des blades, des lames, etc., avec un scrolling horizontal qui déroute un petit peu aujourd'hui.
En précisant que tu dis le nouveau, c'est le futur surtout.
Oui, le futur, pardon, parce qu'il est toujours en preview.
Exactement. Vous pouvez d'ailleurs faire vos commentaires sur ce preview en allant sur le site feedback.azure.com et puis sur la partie de droite, vous descendez, vous avez un New Portal Experience, je crois, et vous cliquez dedans et là, vous pouvez faire vos feedbacks ou voter pour les propositions faites par d'autres pour améliorer ce futur portail qui, pour l'instant, je le rappelle, est encore en preview.
Ils ont rajouté quelques petites choses sympas qui facilitent un petit peu la navigation, notamment... ce qu'on appelle en anglais des breadcrumbs, des miettes de pain.
Des bread quoi ?
Breadcrumbs. Les miettes de pain.
C'est quoi les miettes de pain ?
Alors les miettes de pain, il paraît que ça se traduit en français par le fil d'Ariane.
D'accord, donc une sorte de fil pour savoir où on en est parce qu'on en a ouvert plein de blades.
Exactement, c'est ce qui en haut t'indique le titre de toutes les blades par lesquelles t'es passé. En fait, si tu veux, par exemple, si tu es dans une arborescence et que tu es à la cinquième fenêtre, cinquième étape, tu peux revenir à la première en cliquant sur le premier titre dans la succession des titres en haut de la page.
Ça, c'est une vraie amélioration parce que faut reconnaître que
Qu'on
le
était un peu
système de
paumé.
bled avec des lames qui sont non redimensionnables est assez perturbant et assez gênant du point de vue ergonomique. Vous l'avez beaucoup remonté, donc ils essayent de corriger tout ça. Voilà.
Alors, Stanislas, tu voulais nous parler d'une public preview d'un truc qui s'appelle Azure AD Reporting.
Oui, donc en fait c'est plutôt une API, donc une interface de programmation de type REST, qui est mise à disposition. Donc je ne sais pas si tu le sais, oui, quand on utilise de l'Azure Active Directory, on a tout un ensemble de rapports d'activité, de sécurité, d'audit qui sont disponibles. En fonction des éditions d'Azure Active Directory, tu en as plus ou moins. Quand tu es en premium, tu as vraiment un super grand nombre de rapports différents qui sont proposés, des rapports qui sont construits notamment en arrière-plan de l'analyse avec du machine learning pour détecter des patterns de tentatives de connexion suspectes, tentatives de connexion depuis plein d'endroits différents dans le monde, etc. Donc tous ces rapports en fait sont disponibles via les interfaces, on va dire visuelles, pas via le portail d'administration. Désormais, les informations qui sont dans ces rapports d'activité hein, également sont consommables via des API. Et donc ça va permettre de manière programmatique donc de développer en gros la récupération de ces données pour mettre dans une application tierce par exemple. Et donc, via une variété d'outils et de langages, on va pouvoir donc accéder à ces données. Hein. Donc, c'est possible d'y accéder du coup désormais en C#, en PowerShell, et puis globalement tout langage de programmation qui supporte tout ce qui est API REST avec du hôte, l'authentification hôte. Le format de retour de tout ça, quand le développeur va utiliser ces API pour récupérer ces informations de ces différents rapports d'activité d'Azure Active Directory. Le résultat sera retourné en fait sous trois formes potentielles, soit du JSON, soit de l'XML, soit du format texte en fait. Voilà. Et donc ça, l'idée derrière, c'est en termes d'autorisation d'accès bien entendu à ces rapports qui peuvent être un peu sensibles, c'est également de s'appuyer sur les mêmes modèles d'autorisation que ceux qui sont utilisés pour la partie Azure Active Directory Graph API. Donc cette public preview en fait des API d'Azure Active Directory Reporting permettent aujourd'hui en gros de voir tous les éléments qui sont audités, de voir les comptes provisionnés ou déprovisionnés dans les applications SaaS Azure AD, parce que le but d'Azure AD quand même c'est de donner l'accès à des applications de type SaaS. Donc là du coup via ces API on est capable en fait d'aller chercher dans les rapports d'activité, ce qui a été les comptes qui ont été associés ou pas des applications, associés ou désassociés. Ça permet également aujourd'hui avec les API de voir qui s'est connecté depuis des sources inconnues, donc via passer par des proxys anonymes, etc. Qui s'est connecté ou qui a eu une activité suspecte en termes de signature, d'authentification, pardon. Qui a tenté de se connecter depuis différents endroits dans le monde et qui a réussi au bout d'un certain temps. Donc là, ça, typiquement, c'est le but là, c'est de localiser en gros des utilisateurs qui partageraient leur mot de passe avec d'autres ou un hacker qui en fait testerait en fait la connexion depuis différents pays en passant par différents relais et VPN anonymes. Etc. Donc là, on a vraiment pas mal de choses. À noter, c'est que là encore, l'API va te permettre en fait d'accéder au rapport un peu particulier si tu as la licence premium. Donc on va dire pour les rapports généralistes, l'API permet de le faire, c'est-à-dire les rapports qui sont disponibles dans les éditions gratuites d'Azure Active Directory. Pour accéder bien entendu aux données des rapports premium, il faut avoir une licence premium. Hein, c'est logique, mais c'est toujours bon de le rappeler.
D'accord.
Voilà, donc du coup, les éditeurs, les ISV tiers ou simplement les développeurs dans les entreprises qui veulent se faire leurs propres outils pour aller chercher les données générées dans les rapports, désormais peuvent le faire grâce à ces API. Donc jusqu'ici, il fallait effectivement aller dans le portail récupérer les rapports et les exporter. Donc on va dire que là, c'est fait de manière automatisée. Moi, je dis développeur, mais quand on a du PowerShell, on est bien d'accord qu'effectivement, on va dire que c'est plutôt un administrateur un peu avancé.
Oui, puis ça veut dire qu'on va pouvoir scripter, on va pouvoir définir des alertes, on va pouvoir intégrer ça dans d'autres systèmes d'orchestration ou d'alerte, de supervision.
Exactement, plutôt, exactement. Là, on va dire sympa. qu'on est en train de rentrer dans du mode un peu plus industriel, effectivement, avec l'adoption aujourd'hui qui est un peu plus massive de la partie AD Premium.
Excellent.
Donc ça, c'était la première nouveauté, enfin une des nouveautés assez récentes, hein, la 3 jours. Toujours dans la partie Azure Active Directory, tu sais probablement que dans Azure Active Directory, on peut faire ce qu'on appelle du Conditional Access.
Exactement, oui.
Donc Azure Active Directory permet effectivement de donner accès à des groupes ou à des utilisateurs, à des applications. Et dans les applications, on va dire SaaS, telles que Office 365 ou d'autres, on peut dire par exemple, en accès conditionnel, tu as le droit de te connecter, je sais pas, par exemple, au CRM Dynamics, sous réserve de faire une authentification de faire une authentification de type MFA, c'est-à-dire valider également avec ton téléphone que c'est bien toi. Donc demander une authentification forte pour des applications particulières. On peut également valider que pour accéder à l'application, on le fait bien depuis un poste qui a été enregistré dans Azure AD. Donc, c'est un device sur lequel on a fait un workplace join.
Voilà, qui est connu
de l'informatique. Pas forcément un périphérique managé au sens membre du domaine Active Directory, mais c'est un périphérique qui est connu et associé à un utilisateur. Donc, c'est ça le conditional access, c'est de dire, pour accéder à telles applications, je vais te rajouter des conditions supplémentaires d'accès, donc authentification forte, utilisation de périphériques connus, etc. Donc, ce qu'on vient d'annoncer, c'est que au-delà des applications SaaS, ce qu'on avait déjà, on va pouvoir également faire du conditional access sur Azure ImmoTap, donc qui sont en fait un service de bureau, enfin d'applications distantes hébergées sur du terminal serveur en gros, hein, et donc utilisé au travers du client terminal serveur sur plateforme iOS, Android, et on a un client séparé pour la partie Windows. Donc pour accéder à ces applications RemoteApp, eh bien, on va pouvoir faire de la même façon qu'on faisait pour les applications web de type SaaS, on va pouvoir demander des conditions particulières. Voilà, ça c'est la nouveauté. C'est actuellement, alors je ne sais plus si c'est en preview, je crois que c'est en preview, laisse-moi le vérifier.
Ça suppose un changement au niveau du client peut-être ?
Non, a priori, c'est pas en preview, je pense que c'est disponible. Non, c'est, du coup ça n'a pas l'air d'être en preview, ça a l'air d'être directement disponible. Alors, à noter, les conditional access ne s'appliquent qu'à des comptes d'organisation dans Azure Active Directory. Juste pour rappel, dans Azure Active Directory, on peut avoir des comptes 100% cloud, des comptes synchronisés depuis l'AD sur site. Et puis, on peut intégrer également dans un Azure Active Directory des comptes Microsoft, donc Hotmail, Live ou autre. Donc, cette fonctionnalité de conditional access ne va s'appliquer pour les comptes de type organisationnel dans l'Azure AD. Donc, les comptes Microsoft intégrés dans un Azure AD ne seront pas sujets à recevoir les access rules. D'accord ?
D'accord. Et ça nécessite AD Premium.
En effet. Continuons.
Hier soir, il y a eu publication de pas mal de nouveautés, enfin d'annonces sur Azure.
C'était l'avalanche.
Voilà, on parle de cloud hybride et puis d'une nouvelle notion là, qui s'appelle le cloud hyperscale. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme annonce dans cet ensemble qui a l'air assez important, ouais.
Alors, d'abord pour la partie hybride, en gros, on a annoncé quelques nouveautés sur la partie Azure Site Recovery. Donc Azure Site Recovery, c'est la solution qui permet dans Azure de utiliser Azure comme site de secours dans le cas d'un plan de reprise d'activité, un PRA. Azure Site Recovery donc permet du coup de faire ça. Il aide également à la partie migration vers du cloud parce qu'en gros l'idée c'est de se répliquer, synchroniser des machines virtuelles ou des machines physiques à destination d'Azure. Et puis, en cas de désastre majeur, de pouvoir redémarrer ces environnements dans Azure. Donc, on avait acheté, en fait, il y a même plus d'un an, une société société qui s'appelait InMage, qui faisait un produit qui s'appelait Scout, Scout InMage, qui permettait de faire ce genre de réplication d'informatique, de services sur site à destination d'Azure. Et donc, du coup, là, c'était en preview. Il y a pas mal de choses qui étaient en preview. Et là, c'est en train d'arriver en version GA, donc version, on va dire, finale 1.0. Donc désormais, on va pouvoir, avec Azure Stack Recovery, faire du plan d'emprise d'activité de serveurs qui sont de machines virtuelles qui tournent sur Hyper-V en local, dans le data center. On va pouvoir également, ça c'est nouveau, donc c'est répliquer et redémarrer dans Azure des machines virtuelles qui tournent dans le data center d'entreprise, d'organisation sur VMware ou de serveurs physiques.
D'accord, donc Hyper-V, VMware et physique.
Exactement. Et puis, ça permet l'outil également, alors l'outil tel qu'il existait, et donc on est en train de finir de l'intégrer pour le mettre à jour, de faire des migrations d'Amazon Web Services vers Azure.
Et donc, ce qui est plutôt une bonne idée quand même.
L'outil s'occupe de faire la transformation des formats de machines virtuelles, des extensions, pour comme ça faire avoir une certaine mobilité des machines virtuelles.
Je vois également qu'on intègre Azure Site Recovery à OMS, donc la nouvelle suite Microsoft Operations Management Suite.
Voilà, on aime bien créer des suites chez Microsoft, des bundles de différents services ou produits. Donc là, effectivement, on est en train d'en créer une nouvelle. Donc on va dire qu'OMS, le but, c'est d'étendre System Center et puis donc de protéger, de manager différents workloads. Alors, jamais bien traduit workload. Type de service en fait, donc ça se tourne sur Windows Server, Linux, AWS, Hyper-V ou VMware. Voilà, c'est un petit peu l'idée de tout ça. La stratégie globale étant effectivement d'avoir ce monde d'hybride entre quelque chose qui va s'appeler Azure Stack dans le data center des organisations et qui sera vraiment quasiment le pendant, le miroir d'une grosse majorité de ce qu'il y a dans Azure en cloud public. Alors, du coup, avec ces petites annonces sur Azure, on a également annoncé le support dans les machines virtuelles Linux qui tournent dans Azure, des technologies RDMA. Donc le RDMA, en gros, il était déjà utilisé aujourd'hui, déjà disponible sur des machines virtuelles Windows. Alors c'est pour des cas un peu particuliers, hein. C'est fait pour du scénario de type HPC.
Oui, High Performance Computing, donc des scénarios de calcul, des clusters de calcul
exactement.
De taille imposante, et c'est là qu'on parle de hyperscale. Hein.
Oui, on peut parler effectivement là-dedans d'hyperscale. Donc, c'est depuis déjà quelques temps, plus d'un an, on a des machines, des modèles de machines dans Azure qui s'appellent les A8 et les A9, qui sont des machines virtuelles un petit peu costauds, qui intègrent en fait des adaptateurs InfiniBand. Et donc ça permet de faire du RDMA et d'avoir donc des réseaux à très très haut débit et très faible latence. Donc c'est réellement fait pour faire du HPC. Jusqu'ici, donc les seules machines virtuelles qui pouvaient utiliser, les seuls systèmes d'exploitation qui pouvaient utiliser ces machines virtuelles et ces cartes RDMA, c'était du Windows. Donc là, désormais, on vient d'annoncer effectivement le support de ces cartes RDMA pour faire des clusters HPC sur base Linux. Alors c'est Linux un peu restreint parce qu'aujourd'hui on ne supporte pas toutes les éditions. Là ce qu'on supporte en fait c'est le SUSE Enterprise Server 12, donc le SLES 12. Et puis on est en train de continuer pour pouvoir intégrer d'autres distributions Linux pour supporter ces fameuses cartes RDMA et donc fournir les drivers intégrés RDMA pour faire ces workloads HPC.
On a également annoncé la disponibilité générale, la GA, de Azure Batch, qui est le service qui reprend notre acquisition d'une chose qui s'appelait Green Button et qui permet également de faire du HPC, donc du High Performance Computing dans Azure et donc des scénarios de calcul importants. Donc pareil, c'est disponible généralement. Donc voilà, pas mal d'annonces dans le domaine du cloud Hyperscale et le cloud hybride.
Exactement, et c'est pas fini parce que tu nous parles de cloud, mais le cloud chez nous, c'est pas que Azure, hein. On a une...
Et non.
Si on remonte un peu dans les couches, on a quelque chose de super dans le SaaS qui s'appelle Office 365. Il a
Exactement.
encore pas mal de petites news.
Et oui, tout à fait, Stan. D'abord, on a mis à disposition une page, un petit site qui s'appelle PowerShell for Office 365. Alors, il n'y a rien de nouveau là-dedans, hein. On parle de PowerShell et notamment du module qui s'appelle MS Online qui permet d'aller gérer notre Azure Active Directory sous-jacent à Office 365 et nos abonnements, etc., etc. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on va présenter ces technologies-là d'une façon assez simple et assez sans faire peur aux gens qui ont l'habitude d'administrer Office 365, qui ne sont pas forcément des scripteurs nés, mais qui ont besoin toutefois d'automatiser certaines de leurs tâches administratives un petit peu au jour le jour, quoi. Donc, si vous êtes administrateur Office 365 et que vous n'avez jamais touché au scripting, mais que vous sentez qu'il vous manque un petit quelque chose pour automatiser des tâches, n'hésitez pas à aller voir le site powershell.office.com. Vous aurez des bonnes infos, pas très compliquées, pour mettre ça en œuvre simplement. On a également, Stan, annoncé l'update 2 de Office 2016 Preview, donc avec bon, des nouveaux affichages, je crois, des nouveaux modèles de graphiques sous Excel, ce genre de choses-là, et puis pas mal de corrections de bugs. On s'approche d'une version finale, tout doucement, tranquillement.
Je crois d'ailleurs que c'était annoncé que la version finale arriverait quasiment après, ou juste quasiment après Windows 10. Je ne me rappelle
Alors,
plus, mais je crois avoir vu ça.
il y a deux choses. Je ne sais pas si on a annoncé une date pour Office 2016. Ça, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire de bêtises. Par contre, la version Universal App, application universelle d'Office pour Windows 10, ce qu'on pourrait appeler la version moderne des applications Office, on a annoncé que ça sortirait en même temps ou juste après Windows 10. Donc ça, c'est pour très bientôt.
Cool. Alors, Windows, donc Office 2016, là, tu nous parlais, donc on parlait hein, de la version, bien entendu, Windows. Mais quid de nos amis de la pomme?
Bah oui, n'oublions pas nos amis qui ont des Mac. Et ben eux, ils ont la chance d'avoir reçu un petit cadeau hier, puisque depuis le 9 juillet, Office 2016 pour Mac est disponible. Donc si vous avez un Mac, si vous avez un abonnement Office 365, vous pouvez dès aujourd'hui installer Office 2016 pour Mac complet. Donc avec Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. Mais sachant que OneNote, on peut l'installer gratuitement par ailleurs. C'est le petit cadeau bonus d'Office. Donc c'est plutôt sympa, hein. Moi j'utilise sur un Mac, là j'ai Office, non j'ai pas Office, j'ai OneNote, le OneNote qui va bien, qui est toujours très sympa puisque ça permet de partager nos notebooks, nos notes hein, entre différentes machines. C'est plutôt pratique. Donc aujourd'hui on a Office qui est quasiment à jour sur toutes les plateformes, hein. Il faut le noter, c'est intéressant. On l'a également sur les plateformes mobiles, comme iOS, comme Android, mais aussi sur Windows 10 mobile. Aujourd'hui, on l'a sur Mac, et puis bientôt, là, incessamment, on aura Office 2016 et Office moderne sur tous les Windows.
Ben, ça avance bien. Donc, on a fait Office 35, on a fait Azure, on a vu Windows 10. Les nouveautés avec la surface, qu'est-ce qu'il nous reste de beau?
Oh, il nous reste un petit détail assez intéressant puisque c'est un petit peu le sujet incontournable en ce moment, c'est Docker. Il y a quelque temps, il y a pas si longtemps, il y a eu une conférence Docker dont on a parlé, je crois, la dernière fois, si je me souviens bien, la DockerCon à San Francisco. À cette occasion, on vient de mettre à jour en fait ce qu'on appelle la Docker VM Extension. Donc l'extension qu'on peut installer dans des machines virtuelles Linux, dans Azure, hein, on parle d'Azure ici, pour déployer des containers Docker. Donc la nouveauté dans cette nouvelle version de l'extension Docker pour les VM dans Azure, c'est qu'on va supporter des scénarios de type Docker Compose, Donc Docker Compose, pour rappel, hein, c'est ce qui permet de définir des applications multi-containers, avec en gérant tout ce qui est communication entre les containers de l'application, et puis de déployer ces applications multi-containers comme une seule entité, une seule chose, quoi. Donc ça, et puis aussi le support de Docker Hub et de l'authentification des registres de type Docker Hub. C'est un sujet dont on n'arrêtera pas de parler, je pense, toute l'année, puisque entre le support de Docker dans Azure et le support des containers Windows et Hyper-V bientôt dans Windows Server, je pense qu'on aura de quoi raconter pendant toute l'année.
Oui, et puis le célèbre hype cycle du Gartner devrait arriver, je pense, probablement courant fin septembre, début octobre, hein, c'est en général à peu près la période. Je pense effectivement, comme ça, on aura tous les petits mots-clés qui sont dans la pointe du hype cycle, et probablement que les containers en feront partie. Je ne dis pas Docker, parce que Docker n'est une techno de containers. On va en annoncer d'autres, et puis globalement, il y a eu, je ne sais pas si on en avait parlé la dernière fois, que sur les containers, il y a un standard, enfin, il y a plusieurs constructeurs qui se sont associés ensemble.
On n'a pas eu le temps d'en parler la dernière fois, on l'a un petit peu passé sous silence, oui, effectivement.
Effectivement, c'était. En fait, c'était le. C'était fin juin que ça a été annoncé, je crois, le 23 ou le 22 juin, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement.
C'était la DockerCon.
Plein d'acteurs majeurs se sont on va dire, associés ensemble sur quelque chose qui s'appelle le Open Container Project, où le but est de faire une sorte de base commune à toutes ces entreprises de l'informatique en général. Et donc, dans l'Open Container Project, on va retrouver AWS, Cisco, CoreOS, Docker, EMC, Google, si je ne dis pas de bêtises, HP, il doit y avoir Huawei, IBM, Microsoft bien entendu, Intel, Red Hat, VMware. Je crois même qu'il y a des choses, on ne sait pas ce que ça vient faire dedans, mais il y a Goldman Sachs qui est dedans aussi.
Oui, on se demande pourquoi, mais ils sont là.
Ils sont là, c'est très étonnant. Donc du coup, voilà, le but de tous ces sponsors, de cette, on va dire, organisation ou association,
projet, là, ouais,
c'est d'essayer de définir effectivement une standardisation dans les specs du container. D'ailleurs, les specs sont disponibles sur un GitHub. Et le mieux, c'est d'aller faire un petit tour sur opencontainers.org pour avoir plus d'informations là-dessus. Donc tout ça pour dire que le monde du container va évoluer dans les prochains mois, voire les prochaines années, mais on va dire à court terme. Et que l'idée, effectivement, c'est de partir tous ensemble sur un standard, ce qui va bien avec l'histoire physique des containers.
Ben, je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine.
Oui, finalement, c'était une semaine où on n'a pas eu de discussion sur un thème donné, mais plutôt de l'actualité. L'actualité était plutôt riche.
Tout à fait. Donc, on fait coucou à Arnaud qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin.
Oui, je crois qu'Arnaud est en train de se faire fibrer.
Ouais, j'espère que c'est pas douloureux.
Ça dépend de l'opérateur internet.
Et ben, puis on le retrouve très prochainement pour un prochain numéro, je n'en doute pas. Donc merci Stanislas d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci Pascal pour l'invitation.
Et à très bientôt à tous nos auditeurs. Au revoir.
Au revoir.